Merci. C'est toujours difficile de commencer le premier. Un handicap supplémentaire pour un historien du droit, qui va vous parler encore de la méthode historique, avec le risque de passer pour passéiste, voire rétrograde, avec par ailleurs des conceptions positivistes que beaucoup jugent aussi passéistes ou rétrogrades. Je n'ai jamais caché, je ne les cache pas aujourd'hui. Je ne suis pas un adepte du pluralisme juridique le plus exacerbé, plutôt un partisan du monisme d'un point de vue théorique. Je vais en redire quelques mots. J'espère néanmoins avoir montré, je pense à un de mes articles qui s'intitule Le droit et ses histoires, que je suis ouvert à un pluralisme des approches, et donc à un dialogue entre des approches différentes. Je ne vous cache pas, pas sur le thème, mais sur l'expression aussi, un certain scepticisme de départ. De même, on le dit et on l'enseigne, que le droit comparé n'existe pas en termes d'ordre juridique. Je ne suis pas sûr, je ne dis pas que je suis sûr du contraire, mais je ne suis pas sûr qu'il existe un droit transnational ou global. Et je préfère, Gilles d'ailleurs a utilisé cette expression, parler en termes de processus de globalisation ou de transnationalisation du droit. Et là, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord. Je pars de choses extrêmement simples que vous connaissez tous, et à nouveau pour répéter un certain nombre de convictions, j'espère toujours aussi pour mieux les faire comprendre. Quand je parle de positivisme, comme beaucoup d'autres, je me réfère aux trois formes de positivisme qui ont été exposées par Norberto Bobbio. Je laisse de côté le positivisme idéologique, celui qui supposerait le respect sans condition de la loi. Ça, c'est l'idéologie. Comme beaucoup, je ne suis pas positiviste de ce point de vue, même si j'essaye de respecter les lois de mon pays. Je ne parle pas pour le moment, ça va venir dans un instant, du positivisme théorique et de sa conception du droit et de l'État. Je parle simplement du positivisme épistémologique et méthodologique. Qui, à mon sens, ça n'a rien d'original, combine trois postulats. Le premier, le droit est une série de conventions humaines, de techniques qui ont été inventées, comme la roue et la monnaie, ce qui veut dire, et là il y a déjà beaucoup de désaccords entre les personnes, que pour moi il a existé, et peut-être il existe encore des sociétés sans droit. Et que cette technique a aussi une histoire, bien évidemment, de son développement et de sa diffusion. Le deuxième postulat, c'est qu'en tant que convention humaine, c'est un phénomène social, qu'à ce titre, il peut être observé, comme on le fait dans les sciences sociales, avec un point de vue externe ou modérément externe. Bien évidemment, les phénomènes juridiques se retrouvent immergés dans ce que Mauss a appelé un phénomène total d'un point de vue social. Et on en arrive au troisième postulat. C'est, à mon sens, le rôle des juristes et de la science du droit de ce phénomène total d'extraire, pour l'étudier et par l'étude, ce qui est proprement juridique. Et donc d'aboutir à un minimum de délimitation du droit. Hein, je ne dis pas de définition, il ne s'agit pas de proposer, encore moins d'imposer, un seul concept de droit, mais de se mettre d'accord sur un certain nombre de critères qui permettent d'identifier les phénomènes juridiques. Et leur évolution, leur terrain bien évidemment, est évolutive. Pour ma part, là aussi, ça n'a rien de très original. Je combine à la fois des critères empruntés à Max Weber, à Kelsen, à Hart, à Raz, à d'autres, mais toujours avec l'idée que tout n'est pas du droit et que cette délimitation de l'objet dont on parle est nécessaire. Pour ma part, continue à penser qu'il y a grosso modo trois types de phénomènes, des normes d'abord, créées et manipulées par les pouvoirs, quels qu'ils soient, des pratiques qui, elles, sont plutôt la manière dont les usagers utilisent ces normes et les font fonctionner, et des discours. On ne considère pas que tout est discours dans le droit, ou en tout cas que les normes doivent être distinguées, et même les pratiques, des discours proprement dit, qui supposent un travail réflexif. Vous voyez déjà en quoi, sur beaucoup de points, je ne souscris pas à des thèses pluralistes qui gomment cette délimitation entre le droit et d'autres régulations sociales, ou qui proposent, c'est-à-dire d'ailleurs très intéressant, d'autres tripartitions, pense à celle d'Étienne Leroy, des phénomènes juridiques. Je ne suis pas aussi totalement convaincu par les dernières versions des travaux de notre collègue américain Brian Tamanaha, dont j'appréciais beaucoup les premiers travaux parce qu'ils allaient, je dois le dire, dans le sens d'une critique de ce pluralisme exacerbé. Il me semble qu'il a changé d'avis ou qu'il a évolué en présentant une version qui est défendue par d'autres d'ailleurs, dite empirique ou un peu nominaliste du droit, qui dit « considérons comme droit ce que les usagers, en même temps donné, appellent eux-mêmes droit ». Bon, je comprends cette démarche, je n'y souscris pas, en me souvenant de l'histoire racontée par Mérimée et Alexandre Dumas, du moine Goranflot qui baptisait la viande de carpe pour pouvoir la manger pendant le carême. Donc, si nous sommes libres, chacun de dire ce que nous voyons dans le droit, chacun y verra une chose différente selon ses intérêts, et la discussion risque d'être un petit peu difficile. J'en viens à un deuxième point, là aussi pas très original, mais pas partagé, y compris par tous les historiens du droit, qui revient au deuxième sens du positivisme juridique, le positivisme théorique, celui qui pense que tout dans le droit est créé par l'État et les autorités étatiques ou sous le contrôle de l'État ou avec l'approbation de l'État. D'abord, pour rappeler que cette forme de positivisme juridique et l'expression même positivisme juridique est extrêmement récente. Je ne connais pas, avant un texte de Radbruch en 1914 qui parle de res positivismus, je ne connais aucun texte, ni en allemand ni en français, où les deux termes positivisme juridique sont alignés. Un droit positif, bien évidemment, positivisme tout seul, mais positivisme juridique, c'est quelque chose d'assez récent, bon, qui puise ses sources, bien évidemment, dans différentes pensées du XIXe siècle, en particulier chez Hering, qui a déjà cette définition du droit comme un ensemble de normes créées ou approuvées par l'État, et qui a fleuri, bien évidemment, chez Bergbaum d'abord, chez Kelsen ensuite. Ce positivisme théorique, je suis le premier à reconnaître comme historien du droit, qui ne permet pas bien de comprendre et d'expliquer les phénomènes juridiques des sociétés antérieures, disons, au XVIIIe siècle. On peut utiliser les concepts de la philosophie positiviste, et par exemple les concepts kelséniens, mais bien évidemment, l'ordre juridique identifié à l'État de Kelsen ne convient pas du tout, ni pour le Moyen-Âge, ni pour le droit romain, ni même pour une partie des temps modernes. Ça signifie, à mon sens, que cette théorie, ou si vous préférez cette idéologie, qui prétend décrire, et je pense le fait assez bien, ce qui existe depuis l'État moderne, le développement de sa législation, de ses codifications, de ses constitutions, de l'ordre international, a aussi une histoire. Et cette histoire, avec d'autres, je travaille avec Baudouin Dupré à ce sujet, c'est une expression qui a été proposée par Baudouin Dupré, nous proposons de l'appeler l'histoire de la positivisation du droit, c'est-à-dire le moment où, en Europe d'abord, ou dans le monde occidental, y compris les États-Unis, le droit a été conçu, au moins par certains, comme exclusivement positif et dépendant de l'État. Et surtout, ce qui apparaît important, avec la colonisation ou la semi-colonisation, comment ce modèle juridique a été imposé à l'ensemble du monde. Il ne s'agit pas de l'approuver, encore moins de dire que la colonisation a eu cet effet bénéfique, mais tout simplement de reconnaître que c'est ce modèle de droit et d'État qui, au XIXe, au XXe siècle, s'est répandu dans le monde et, pour une part, nous gouverne encore. L'Organisation des Nations Unies est une organisation d'État, le monde est plein d'États, nous avons tous une nationalité, au moins un passeport, des liens avec un ordre juridique national. En voyant cette perspective historique, encore une fois, ce n'est pas à dire qu'il y a toujours eu du droit et encore moins qu'il y a toujours eu des États, mais que depuis le XVIIIe et le XIXe siècle, nous avons beaucoup d'États, beaucoup de droits qui dépendent de l'État, et que même si, j'en conviens, nous en sortons peut-être, nous en sortons progressivement et que nous sommes encore, pour une grande part, dans ce réseau d'États. J'ai une troisième banalité encore, peut-être même un petit peu plus, avant d'en venir, je vous rassure, dans la deuxième partie de mon exposé, à des aspects plus prospectifs. C'est peut-être aussi une raison d'un scepticisme par rapport à cette expression droit transnational ou droit global. Entre le droit national, qui reste à mon avis important, et cet hypothétique droit transnational ou global, il y a le droit international. Il ne faut pas négliger le droit international. Il ne faut pas croire que le droit international, en quelque sorte, serait dépassé, lui aussi, par l'avènement d'un droit transnational. Ma perspective historique, c'est aussi celle d'un droit international récent. Je veux bien qu'on discute de Grotius, hein, de littérature juridique. Pour moi, le droit international, c'est une construction surtout du 19e et du 20e siècle. C'est un autre débat. Et une construction qui a connu un tournant décisif après 1945, avec quand même l'Organisation des Nations Unies, une charte des Nations Unies, souscrite par 193 pays dans le monde, la quasi-totalité de la planète, des conventions de droit uniforme, vous connaissez, les pactes des droits de l'homme, les conventions sous l'égide de l'ONU. Si ce n'est pas du transnational au sens où ça dépasse les frontières nationales, il me semble bien que ce sont des règles de droit qui sont communes dans ces conventions, aujourd'hui fréquemment à 130, 150, voire 190 pays pour les conventions les plus souscrites, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire précédente qu'il ne faut pas négliger, même si on essaye de passer à un échelon différent ou même supérieur, qui est celui du droit global. Se rappeler aussi que, quels que soient ces développements et les effets très importants du droit international, son poids, son impact sont très variables d'un continent à l'autre, d'une région à l'autre du monde. Hein? Nous sommes en Europe qui est, avec les ordres juridiques européens, la partie du monde où le droit est le plus internationalisé, où il y a au-dessus de nos juridictions nationales des juridictions régionales de droit international. C'est déjà un peu moins le cas aux États-Unis, surtout en Amérique du Nord. C'est encore moins le cas en Afrique, où ces juridictions débutent depuis quelques années. Ce n'est absolument pas le cas en Asie. L'expérience m'a fait comprendre, en discutant avec des collègues indiens, chinois, japonais, qui connaissent le droit international, que bien évidemment pour ces pays le droit international est important, mais que pour le juge indien, le juge chinois ou pour le juge japonais, ce que nous appelons le contrôle de conventionnalité n'a aucun sens et il n'y a pas une mobilisation quotidienne du droit international. Je ne dis pas que le droit international est absent dans ces pays, mais au-dessus des juridictions indiennes, au-dessus des juridictions chinoises, au-dessus des juridictions japonaises, il y a bien sûr la Cour internationale de justice, les panels de l'Organisation mondiale du commerce, mais il n'y a pas de Cour des droits de l'homme, hein, et rien qui puisse leur être imposé par une Cour supranationale. Je pense qu'il faut aussi se souvenir toujours de cela. Ça ne signifie pas que le continent asiatique soit isolé, mais de le voir. Je pense que les collègues beaucoup plus experts que moi sur ce sujet vont parler avec vous de l'arbitrage international. L'arbitrage international, avec ses effets en termes peut-être de droit transnational, c'est d'abord du droit international. Ce sont d'abord des traités, des conventions, celles de New York, celles de Washington, souscrites par les États, là aussi par la majorité des États du monde, plus de 150, qui ont accepté que se développent en matière commerciale et en matière d'investissement des arbitrages. On est presque arrivé à la fin des banalités. Pas tout à fait, mais je pourrais être rapide. Mon quatrième point, il y en a 10, hein, vous voyez que tient à peu près les temps, je pensais l'appeler la puissance maintenue des États. Bon, ça peut être rapide, hein, ce que font beaucoup d'États aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la Turquie, la Syrie, Israël, la Chine et beaucoup d'autres. Ce ne sont pas des États impuissants, ou en tout cas, ce sont des États qui agissent, qui ont un impact à travers le droit extrêmement violent sur les personnes. Tout ce qui concerne aujourd'hui le contrôle des faits migratoires, certains diront que c'est la faillite de l'État et de ses frontières, mais pour les personnes qui doivent franchir les frontières, l'État n'est pas absent. Il est au contraire très pesant et voulant renforcer son contrôle. C'est un autre domaine dont je ne suis pas du tout expert et donc dont je parle peut-être à tort, celui de l'Internet et de sa régulation. J'entends dire que les États commencent à réagir dans certaines parties du monde, à contrôler de plus en plus, à même écarter les GAFA ou les pouvoirs transnationaux de l'Internet. Bon, rien de très réjouissant dans tout ça, mais en tout cas, d'un point de vue de l'analyse, l'État n'est pas mort et il résiste sur certains points. Donc j'en arrive, je vous rassure quand même, au sujet lui-même. Ma démarche m'amène bien évidemment à admettre qu'il existe depuis un certain temps, à travers notamment tous les transferts juridiques, ils sont anciens, des phénomènes de circulation entre les ordres juridiques, en particulier entre les ordres juridiques nationaux de l'époque contemporaine. Ils sont, comme on a dit souvent, étanches formellement, mais poreux matériellement. Ils communiquent les uns avec les autres. Ces échanges, bien évidemment, se sont intensifiés en nombre, en quantité, mais aussi en qualité. Ils tissent toute une série de relations complexes en réseau qui évoquent bien évidemment l'idée de quelque chose de transnational. Le problème, c'est justement d'identifier ce que beaucoup de collègues, Gilles Huillier notamment, appellent des espaces. Hein, je suis assez séduit par cette idée qu'il y a des espaces. Les uns géographiques, hein, une concession dans un pays en voie de développement minière ou une concession pour une plantation, pour une grande compagnie qui s'abrite derrière des murs et des protections et qui a ses propres règles internes, c'est un espace de droit transnational qui reste incorporé dans le territoire d'un État soumis à la loi de cet État. Reconnaissant même très souvent la loi de cet État dans le contrat qui a permis l'établissement de la concession, mais on voit très bien que les autorités étatiques pénètrent peu ou pas dans cet espace et que là, il se passe quelque chose d'autre avec une entité non étatique et avec du droit transnational. et bien évidemment aussi sur Internet ou dans des échanges détérioralisés, il y a aussi des espaces où il y a le droit transnational. Alors, je ne vous dirai pas que ça ne m'intéresse pas, je dirais plus simplement que je ne me sens pas la compétence aussi pour étudier très bien ces espaces, et que ces espaces n'occupent qu'une partie du territoire, qu'une partie des échanges juridiques, et bien évidemment aussi interagissent avec les espaces locaux, nationaux, qui ne reste pas indifférent à cela dans le processus de globalisation. Et donc ce que j'essaye de faire, cette fois-ci plus comme comparatiste que comme historien du droit, et ce que j'espère faire dans les prochaines années, c'est plutôt étudier ce que beaucoup appellent les phénomènes de glocalisation, d'adaptation au contexte local, de mouvements, de circulation, de phénomènes qui existent à l'échelle transnationale. Et là, il y a, me semble-t-il, une place, je ne dis pas du tout monopolistique, mais une place pour une démarche historico-comparative, historique parce que ces espaces locaux ont leur histoire et que leur histoire, notamment postcoloniale, continue à déterminer pas mal de phénomènes qui se déroulent dans ces espaces, et comparative parce que la glocalisation a ceci de passionnant qu'elle est très diverse, qu'il y a toutes sortes de phénomènes, toutes sortes de configurations à travers les continents, à travers les pays, dans le même espace, et qu'on va découvrir à chaque fois des choses assez différentes. Alors pour les quatre derniers points, sur différents domaines, je voudrais donner des exemples qui ne sont pas eux non plus nouveaux, mais qui me paraissent intéressants. Et là, je suivrai un plan assez classique, un petit peu des branches du droit, même si je ne crois pas que ces branches aient une existence en elles-mêmes, et encore moins intemporelle ou en dehors des espaces. Du côté du droit constitutionnel, j'ai suivi comme d'autres quelque chose qui est advenu finalement dans les 30 dernières années. Jusqu'à il y a 30 ans, le droit comparé, c'était presque exclusivement du droit privé comparé, et on lisait encore des textes d'excellents comparatistes qui disaient « ça ne sert à rien de comparer les droits constitutionnels des différents pays, justement chacun a son histoire, chacun a sa politique, c'est incommensurable, et tout tient à la fameuse identité nationale ». Je ne crois pas, ni en France ni ailleurs, et donc la comparaison n'est pas possible. Bon, nous sommes sortis de ça. Bon, je suis assez vieux pour avoir connu quand même la période où on était encore dans cela, et pour dire, là, il y a eu un changement, et toutes sortes d'études qui peuvent conduire effectivement à identifier ce que certains appellent un droit constitutionnel global, ou des éléments de droit global dans le droit constitutionnel. Pour citer un auteur, les travaux de Frankenberg avec sa théorie IKEA me paraissent assez bien adaptés pour expliquer comment aujourd'hui des éléments du droit constitutionnel, et en particulier du contentieux constitutionnel, peuvent circuler complètement déconstitutionnalisés comme des techniques, comme des produits qu'on trouve dans un catalogue de vente, d'où le nom de la théorie, et être transplantés dans un grand nombre de pays. Je songe aussi, mais là avec un point de vue, oui, Gunther Frankenberg. Je songe aussi aux travaux de Rahn Hirschel sur le contentieux constitutionnel, très intéressant, bon, qui reprend aussi pas mal d'études qui ont été faites sur les nouvelles juridictions constitutionnelles en Asie, type Corée du Sud, Taïwan, Indonésie, qui sont apparues ces dernières années, dont certaines sont actives. En Afrique, il en existe quelques-unes, comme le Bénin. Et bien évidemment, la poursuite et le développement de juridictions constitutionnelles plus plus ancienne. Rani Hirschel va jusqu'à prétendre qu'il y a 150 pays dans le monde qui connaissent quelque chose du contrôle de constitutionnalité. Là, je ne suis pas d'accord. Hein. Pour lui, il suffit que dans la Constitution ou dans une seule norme, il soit indiqué quelque chose qui évoque le contrôle de constitutionnalité, même s'il n'y a pas de cour, même s'il n'y a pas de tribunal qui peut décider quoi que ce soit, même s'il y a un tribunal mais qui ne fait rien, et c'est le cas dans pas mal de pays, il considère que c'est du contrôle de constitutionnalité et qu'en quelque sorte, c'est un élément de constitutionnalisme global. Moi, j'ai tendance à dire, étudions cas par cas, hein, comparons les mécanismes, mais aussi leur fonctionnement. Combien de lois sont jugées inconstitutionnelles dans un pays, combien de lois dans un autre, comment les États, des gouvernements forts contrôlent ou manipulent des justices constitutionnelles, hein, ce qui s'est passé ces dernières années en Turquie, en Égypte, en Thaïlande par exemple, où la juridiction constitutionnelle est complètement instrumentalisée, absolument pas une protection des droits de l'homme et de la Constitution, mais un moyen pour l'élite au pouvoir autour du roi de se maintenir au pouvoir et de manipuler tout le système. De même que les théoriciens allemands avaient parlé à propos de la Douma d'Empire après la révolution de 1905 de Scheinkonstitutionalismus, de constitutionnalisme d'apparence, je dis ça, ce sont des juridictions constitutionnelles d'apparence. Et si c'est ça le droit transnational, c'est de la propagande, c'est de la politique sans beaucoup d'impact sur le droit. Donc tout à fait d'accord pour continuer à faire, à partir du droit constitutionnel comparé, la recherche sur ces circulations, sur la circulation des jurisprudences constitutionnelles, qui est indéniable et facilitée par Internet, mais en tenant compte de ça. Deuxième domaine, me semble-t-il, un peu négligé par les comparatistes, tous ceux qui s'intéressent à ces questions, le droit pénal. Même négligé dans nos études, hein, on fait de moins en moins de droit pénal. On nous laisse entendre qu'une grande partie du droit n'a aucune relation avec le droit pénal. Un peu de réalisme dit que le droit, c'est aussi des peines, des prisons et des règles du droit pénal. Là aussi, bien évidemment, il y a des circulations, hein, il y en a depuis longtemps, hein, depuis le XVIIIe siècle, des mouvements, des phénomènes, ne serait-ce, c'est un premier point de départ, que d'analyser les différents phénomènes de décriminalisation, hein, des crimes qui disparaissent, hein, dans beaucoup d'États. L'an dernier, l'adultère a cessé d'être puni en Corée du Sud. C'était un des derniers pays non musulmans à pénaliser l'adultère. Mais il y a aussi des phénomènes de criminalisation, y compris dans nos sociétés. Nous criminalisons de plus en plus les violences domestiques, la corruption, les atteintes à l'environnement. Et là, me semble-t-il, la prolongation d'études locales, de localisation, donc qui suppose aussi l'étude de la manière dont les lois pénales sont appliquées, bien évidemment, ou ne sont pas appliquées. L'hypothèse de départ, mais attestée, me semble-t-il, c'est plutôt le grand écart. Hein. Tandis que certains pays décriminalisent certains comportements, les autres non seulement continuent à les criminaliser, mais les criminalisent de plus en plus, et inversement. Et ça n'est pas uniquement la question de la charia ou d'autres législations répressives, ce sont des phénomènes plus complexes, plus croisés, où, à mon sens, si on poursuit des études, on aura peut-être des surprises de voir que tel système qu'on imaginait très répressif l'est dans un code pénal. Il y a aussi beaucoup de pays qui conservent un code pénal très ancien, très, très, très vieilli. La structure normative, elle apparaît fixe, alors que bien évidemment la pratique ne l'est pas. Et inversement, on verra des aspects répressifs. Le droit des personnes, bien évidemment, le droit de la famille, Il nous manque des études, je trouve, sur l'évolution des statuts personnels de la vingtaine de pays dans le monde qui pratiquent une pluralité de statuts personnels. On répète un peu toujours les mêmes choses. Il faudrait des études sur le terrain pour voir comment ça fonctionne ou comment ça ne fonctionne pas, s'il y a des circulations ou pas. Le système des statuts personnels isole en principe les personnes dans leur communauté d'origine, souvent religieuse. Les problèmes de l'application des lois personnelles. Hein, on sait que notamment dans beaucoup de pays d'Afrique, les règles contenues dans des lois ou dans des codes sont peu ou pas à appliquer. Et bien évidemment, et ça concerne là davantage nos pays occidentaux, les effets des migrations, et donc même dans des pays centralisés, monistes comme la France, les effets que peuvent avoir la présence de populations qui, pour certaines, revendiquent leur statut personnel ou en tout cas ont connaissance de leur statut personnel. La question foncière, à la campagne et dans les villes. J'ai évoqué les grandes concessions minières ou de plantation. Elles sont souvent, presque toujours, en contact avec l'agriculture traditionnelle, voire dans des zones forestières avec les sartages, avec des droits d'usage. Donc là, on a sur certains territoires, dont les géographes, beaucoup plus que les juristes, font l'étude et la cartographie, des phénomènes de localisation ou côte à côte, parfois en conflit ouvert, parfois en coopération, ou en tout cas avec des interactions, il y a le droit transnational, ou en tout cas le droit porté par des grandes compagnies multinationales, et le droit local, voire les droits locaux, les droits d'usage et coutumiers. Et dans beaucoup de villes, c'est mégalopole des pays en développement où les limites de la propriété n'ont jamais été bien fixées. Là aussi, toute une série de questions qui depuis longtemps mobilisent nos collègues sociologues, géographes et qui devraient intéresser les juristes en termes de localisation. Il en va de même pour le petit commerce. Le droit transnational est bien évidemment celui du grand commerce international qui donne lieu aux arbitrages, à l'action des law firms. Mais en dessous, il y a tous les arrangements du petit commerce qui sont locaux. Ça ne signifie pas qu'ils soient imperméables au droit transnational. Hein. Le petit commerçant a aussi son ordinateur, a aussi les moyens de communiquer avec le reste du monde. Comment des syndicats, des corporations, des guildes fonctionnent encore aujourd'hui à l'ancienne, ou en tout cas en utilisant des processus anciens, mais en les matinant de processus transnationaux. Et puis, j'en termine simplement par une évocation et sur un point que j'abordais au départ. Oui, la... Oui, c'est pour moi, c'est pour le café. C'est ici pour ça. La littérature juridique. Nous sommes sensibles, bien évidemment, nous la lisons, nous essayons de la lire, parce qu'elle est très prolifique, à la littérature internationale, pour l'essentiel en anglais, qui parle du droit global. Ce qui me frappe comme historien d'un pays occidental, c'est que nous sommes habitués depuis longtemps à ce qu'il y ait une littérature juridique dans notre pays, dans notre langue, décrivant notre système, et allant même, je n'y crois pas beaucoup dans le cas de la France, jusqu'à dire qu'il existerait une doctrine française, une doctrine britannique, une doctrine italienne. J'ai lu récemment des travaux sur l'Indonésie hein, qui montrent comment dans un pays où il y a encore l'empreinte postcoloniale du droit néerlandais, code est d'origine néerlandaise, où il y a le poids variable, parce que sans être une fédération, il y a différents territoires de la charia et du droit musulman. Il y a surtout le développement exponentiel, comme dans beaucoup de pays, du nombre des écoles de droit, une concurrence entre les écoles d'État traditionnelles et les écoles religieuses, et la volonté, ce qui n'existait pas jusqu'alors, de développer une littérature du droit musulman indonésien, c'est-à-dire en langue locale, et montrant aussi tout ce qu'il y a de différent avec d'autres droits musulmans. Donc de constituer une littérature du droit national, ce qui chez nous existe depuis longtemps, mais dans beaucoup de pays, la plupart des pays d'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de littérature juridique qui leur soit propre. Et ce n'est pas une injure que nous faisons à nos collègues africains, mais leur enseignement a été très longtemps. Il reste encore modelé par les canons occidentaux peine à développer, je ne dis pas que ce soit un bien ou un mal, ce type de littérature. Faire des études, là aussi, empiriques, bibliométriques, sur ces littératures serait, à mon sens, aussi un moyen, encore une fois, non pas de nier les phénomènes transnationaux, mais de montrer qu'ils se combinent avec des phénomènes nationaux qui, sur certains terrains, sont plutôt en augmentation qu'en diminution.